grand dialogue
sigika foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halu dmoundi
chenni biri sigika foba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 25 août 2014. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Nous parlons aujourd'hui du tout nouveau rapport d'Amnesty International sur le Mali. Trois volets sont concernés par ce débat. Que dit le nouveau rapport d'Amnesty International? Nous commencerons donc avec cette première question. Les enquêtes sur les exactions à Kidal, il en sera question dans la deuxième partie. Et nous finirons par l'insécurité, le volet insécuritaire de ce rapport d'Amnesty International. Alors, pour en parler, Maître Mokhtar Mariko de l'Association malienne des droits de l'homme. Nous aurons également Saloum De Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali. Et enfin, Maître Brema Kone de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Je suis Famoussa Sidibé, Petit Djera est à la mise en onde. Bonsoir donc messieurs et bienvenue à ce débat. Dans son dernier rapport, Amnesty International exhorte les groupes armés à cesser ces violations du droit international humanitaire, notamment les prises d'otages et les homicides intentionnels. L'organisation demande aux autorités maliennes de diligenter sans délai des enquêtes approfondies sur les accusations de crimes de droit international et atteintes aux droits humains afin d'identifier les personnes soupçonnées de responsabilité pénale. Alors, que dit ce nouveau rapport d'Amnesty International? En gros, Saloum De Traoré, vous qui êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Mali.
Merci bien. Je commence d'abord par remercier le studio Tamani pour tout ce qu'il fait par rapport aux droits humains, par rapport à l'information sur les droits humains. Bon, comme vous le dites, notre nouveau rapport là vient d'être publié et ça parle d'exactions, ça parle de détention d'enfants soldats, ça parle de décès en détention. Voilà, donc ça c'est les grands titres qui se trouvent dans notre rapport.
Alors c'est un rapport essentiellement focalisé sur les enfants.
Bon, comme je le dis, ce n'est pas force, c'est pas complètement focalisé sur les enfants, puisque quand ça parle de décès en détention, il ne s'agit pas d'enfants. Et quand nous parlons aussi de ce qui s'est passé à Kidal, j'allais oublier, effectivement, il y a une grande partie aussi du rapport qui est consacrée aux événements qui se sont passés à Kidal tout récemment, avec la visite du Premier ministre là-bas.
Alors, les enfants, nous allons rester sur les enfants. Les enfants qui sont en détention, il y en a au sud. Et dans quel état sont-ils?
Les enfants qui sont en détention, bon, il faut dire que il y a quelques enfants en détention pour l'instant. Nous pouvons dire qu'il n'y en a pas trop maintenant, puisque chaque fois, il y a des enfants qui sont en détention et puis quelques temps après, ils sont libérés, il y a d'autres qui les remplacent. Actuellement, nous avons trois enfants en détention, à ce que je cherche, pour ce qui concerne la gendarmerie. Et même là, il faudrait que je mette ça entre guillemets, parce que les autorités nous disent que ce n'est pas des enfants, étant donné que nous n'avons pas de papier qui atteste réellement de leur âge. Mais à vue d'œil, bon, pour des gens qui sont habitués quand même à reconnaître les enfants, enseignants que je suis par exemple, souvent, on peut quand même se dire que c'est des enfants. Et dans tous les cas, leur jeunesse fait qu'ils ne doivent pas rester en détention avec des adultes. C'est surtout ça que Amnesty International reproche. Il ne faut pas que ces enfants-là restent en détention avec des adultes. Et pas seulement, pas n'importe quel adulte, des personnes extrêmement dangereuses. Tenez-vous, des gens qu'on a arrêtés parce qu'ils sont en tout cas supposés être des djihadistes, ou bien encore des gens, en tout cas, qu'on a pris sur le terrain de bataille. Donc, ce n'est pas du tout juste que des enfants soient en détention avec ces gens-là. Nous avons simplement demandé que ces enfants soient transférés dans les prisons pour enfants, ou bien qu'ils soient purement et simplement rendus à leurs parents, puisque nous, nous considérons que c'est des enfants qui sont victimes. Ils n'ont pas choisi d'aller prendre les armes pour tuer. Ils n'ont pas choisi d'être enfants soldats. On les y a forcés. on leur a donné de la drogue, on leur a appris les maniements des armes et on les a mis sur le terrain de bataille. Si donc le gouvernement, si l'armée nationale ou bien si les forces selvages arrivent à arrêter ces enfants-là, il s'agit vraiment de pouvoir les libérer. Surtout qu'il y a déjà des accords qui ont été signés entre le gouvernement du Mali et l'UNICEF et les forces Serval aussi, comme quoi, si ces enfants sont arrêtés, on les mettrait, le Serval allait les mettre directement à la chair qui les remet au gouvernement, et le gouvernement les remet à l'UNICEF pour enfin les voir libérés.
Alors, Maître Mokhtar Mariko, vous êtes avocat, vous êtes de l'Association malienne des droits de l'homme. Nous parlons aujourd'hui du rapport d'Amnesty International, mais de façon globale, nous parlons des droits de l'homme. Vous venez d'entendre la situation des enfants prisonniers. Quel est votre regard sur le contenu de ce rapport d'Amnesty International?
Bon, je dirais que ce rapport reflète réellement ce qui se passe dans ce pays et ce qui s'est passé à Kidal. J'exhorte Amnesty International dans ce genre de travail parce que c'est le même but que nous poursuivons et nous pensons que nous devons tous soutenir ce rapport afin que ces enfants dont on parle soient remis à leurs parents ou bien que ces enfants soient gardés dans des centres de détention pour enfants. Parce que dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à un enfant une quelconque infraction pour la simple raison que cet enfant n'avait pas son consentement libre au moment où on l'enrôlait. Et que cet enfant soit pris sur le champ de bataille ou bien dans un autre endroit quelconque, on doit essayer de les protéger. C'est ce qui est demandé dans tous les instruments juridiques internationaux. Il faut protéger l'enfant. Mais le mettre en prison, ça c'est une situation exceptionnelle. Mais il y a un problème qui se pose. Comme l'a dit Salim Traoré, c'est par rapport à l'acte de naissance de ses enfants. Vous savez, dans notre pays, ce n'est pas tout le monde qui peut exhiber un acte de naissance tout de suite. Parce qu'il y a certains endroits au Mali où les gens n'ont pas de pièce d'identité, n'ont pas d'acte de naissance. Il faudrait, comme il a dit, qu'on cherche avec une clairvoyance que si c'est réellement des enfants, qu'on les remette à leurs parents. Mais et cela ne trompe personne. Quand on voit un enfant à vue d'œil, on sait que cet enfant n'a pas l'âge de la majorité et par conséquent, on doit le protéger. Mais en ce qui concerne les autres aspects, comme il a évoqué, il est dit dans l'accord de Ouagadougou qu'une commission internationale doit être mise en place pour enquêter sur les crimes les plus graves. Cette commission n'a pas vu le jour, c'est ce que nous déplorons. Si cette commission avait vu le jour, les enquêtes sur les faits de Kidal seront vite rapportées et les présumés auteurs seraient déjà poursuivis. C'est la seule chose, la seule fausse note que nous regrettons dans la gestion de la crise malienne et dans ces graves violations des droits de l'homme que nous sommes en train d'assister impuissamment, je le dis impuissamment, parce que tout ce que nous préconisons pour le gouvernement malien n'a pas eu cette écoute-là. C'est-à-dire qu'on nous a entendus, on nous a écoutés, mais on ne nous a pas entendus par rapport à tout ce que nous disons. Et si cela continue d'aventure, nous n'aurons pas cette paix que nous souhaitons tant pour notre cher pays.
Alors nous avons également en ligne Maître Brema Kone de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Maître, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous parlons aujourd'hui du rapport d'Amnesty International, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est de façon globale que nous parlons des droits de l'homme au Mali. Quel est le défi majeur pour une organisation comme Amnesty International, bien vrai que vous ne soyez pas d'Amnesty International, pour enquêter et donner un rapport fiable sur les crimes, par exemple, de Kidal?
Je dirais tout d'abord que Amnesty International, AMDH, Union africaine, toutes les organisations de défense des droits de l'homme ont la même vocation, celle de protéger, de défendre, de promouvoir les droits de l'homme. Et je pense que c'est la même famille et je salue pour cette raison, le travail abattu par Amnesty International dans un contexte aussi difficile pour aboutir à un rapport de cette nature. Et je pense que les dénonciations faites sont tout à fait légitimes et sont crédibles, d'autant plus que c'est partagé par la plupart des organisations de défense des droits de l'homme. Bon, le défi majeur à relever aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'aucune place ne soit laissée à l'impunité. Autant il y a des besoins de paix aujourd'hui pour que notre pays puisse se retrouver. Il y a des questions sécuritaires, mais au-delà, nous ne devons pas oublier le respect des droits de l'homme en toutes circonstances. Ce qu'Amnesty a dénoncé aujourd'hui, c'est des atteintes graves portées aux droits des mineurs. C'est vrai que ça pose souvent des problèmes, même au niveau judiciaire. Le juge doit, en vertu de l'acte de naissance, vérifier si l'enfant, au moment des faits, avait agi avec discernement. Ça, c'est à partir d'un certain âge. Mais les enfants mineurs, les enfants de moins de 13 ans, ne doivent pas être passibles d'une juridiction. Donc, ils doivent être purement et simplement libérés. Mais comme l'a dit Mokhtar, tout comme l'a dit également Saloum, dans un contexte aussi difficile, et puis dans un pays comme le Mali, surtout au nord, il y a certains citoyens qui n'ont pas d'acte de naissance. Et il est en ce moment difficile de déterminer tout de suite l'âge exact. Mais nous sommes des militants des droits de l'homme, nous sommes doués de bon sens, des raisons qui font que nous pouvons aussi tout de suite envoyer un enfant, il s'agit d'un enfant. Donc là, je salue l'effort d'Amnesty et nous dénonçons tous avec Amnesty cette inégalité qui ne doit pas du tout persévérer.
D'accord. Alors, maître, merci beaucoup pour ces précisions. Vous allez rester avec nous, mais nous allons juste vous demander de vous isoler un peu. Il y a beaucoup de bruit de fond dans votre communication. Nous vous demandons ce petit geste-là pour que nous puissions mieux vous entendre. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause juste avant d'entamer avec la deuxième partie de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Cette radio est également écoutée dans la cité de 333.5 grâce à la radio Djamana. Un bonjour spécial à Lucine Eladji, notre correspondant sur place. Ce soir, nous parlons du nouveau rapport d'Amnesty International sur le Mali. Cette deuxième partie est consacrée aux enquêtes sur les exactions à Kidal. Nos invités, Maître Mokhtar Mariko de l'Association malienne des droits de l'homme, Saloum De Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International Mali, Maître Brema Kone de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Alors nous allons parler donc de plein pied, nous sommes dans la deuxième partie qui parle des enquêtes sur les exactions à Kidal. Où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes sur les exactions perpétrées par les groupes armés sur les fonctionnaires maliens à Kidal? Saloum De Traoré d'Amnesty International.
Présentement, je ne suis pas capable de vous dire réellement où est-ce que nous en sommes. Comme Maître Mariko a le dire, il y a toujours l'État qui traîne les pas quand il s'agit de faire les enquêtes.
Mais est-ce que l'État a les capacités aujourd'hui nécessaires pour enquêter sur place?
Bon, ça va être peut-être un peu difficile, mais on ne peut pas juger de ce que l'armée peut faire. L'armée, c'est composé des hommes très stratèges qui ont toutes sortes de stratégies pour pouvoir aboutir.
Mais dans ce cadre-là, peut-on compter sur l'État, vu que l'État est victime dans cette affaire ? On peut être jugé parti ?
Bon, ça, de toutes les façons, pour nous, nous ne pouvons demander qu'à l'État de mettre les conditions pour pouvoir avoir une enquête vraiment crédible.
Alors, quelles sont ces conditions, selon vous ?
Bon, ces conditions, je pense que c'est de trouver les moyens. Si l'État lui-même ne peut pas aller directement là-bas, l'État est en coopération avec des organismes, des organisations qui sont capables vraiment de pouvoir faire ce travail.
Alors, Maître Mokhtar Mariko de l'Association malienne des droits de l'homme, quel est le rôle de l'État dans le cas spécifique des exactions de Kidal par rapport aux enquêtes ?
Bon, le rôle premier de l'État, c'est de permettre aux citoyens d'avoir une réparation des préjudices qu'ils ont subis. Parce que c'est l'État qui a cette charge de protéger les citoyens, de protéger les citoyens et leurs biens. Et nous avons constaté qu'à Kidal, cela ne fut pas le cas. Je disais tantôt que les accords de Ouagadougou, en son article 18, parlaient de la mise en place d'une commission internationale. Je l'ai dit tantôt que nous avons été écoutés par les autorités maliennes, nous avons été écoutés par l'AMINISMA et tous les autres organismes qui sont venus nous aider pour trouver une solution à la crise malienne, pour leur dire que tant qu'on ne mettra pas sur pied cette commission, des crimes vont être commis partout dans le Mali. Et comme vous l'avez dit tantôt, nous, l'État malien n'a pas la possibilité présentement d'aller jusqu'à Kidal pour enquêter. Mais nous savons que l'État a des partenaires comme la MINISMA qui se trouve déjà à Kidal. Et si cette commission avait été mise en place, cela allait faciliter le rôle de l'État. Mais cela n'a pas été fait. Et comme l'a dit Maître Koné, c'est la culture de l'impunité qu'on est en train de voir, qu'on est en train de constater. Et tant que cette commission ne sera pas mise en place, les enquêtes vont être difficiles. Vous l'avez dit, on ne peut pas être juge et parti. Si l'État se permet d'aller enquêter seul, que vaut ces rapports ? Que vaut les faits relatés dans ces rapports ? Puisque l'État est juge et parti. Donc si la commission internationale avait été mise sur place, on n'en serait pas là.
Mais qu'est-ce qui bloque cette mise en place ?
Mais ça, c'est la volonté politique qui n'y est pas.
Malienne ?
Des deux côtés. Des deux côtés, mais surtout du Mali, que nous pouvons appeler vraiment à sortir de sa position pour aller vers la mise en place de cette commission internationale avec le médiateur, avec tous ceux qui sont venus pour nous aider. Moi, je pense qu'il est très facile pour le Mali, en sollicitant à tous ces organismes et aux médiateurs de la crise malienne, de mettre tout de suite sur place cette commission afin que les enquêtes puissent continuer.
Alors, Maître Brima Koné, vous êtes de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Quel peut être le rôle des forces étrangères sur place au Mali dans le cadre des enquêtes sur les exactions perpétrées dans le Nord, notamment à Kidal ?
Je pense que, comme l'a dit Maître Mokhtar Mariko, il s'agit d'une question de volonté, aussi bien de la part de l'État que de la part de la communauté internationale. Mais dans un contexte comme celui du Mali, tout le monde sait aujourd'hui que l'État malien n'a pas la possibilité d'enquêter comme il le faut au niveau de Kidal. Kidal même n'étant pas actuellement sous le contrôle de l'État du Mali. Et la deuxième chose, un rapport émanant des autorités maliennes sur ces crimes-là ne serait pas tout à fait crédible sur le plan international. Pour aboutir à un procès équitable, je pense que ce travail doit émaner d'une commission internationale indépendante. Et qu'il s'agisse de la commission dont parle l'accord de Ouagadougou, ou alors une autre commission qui va être mise en place conformément aux différentes résolutions adoptées par les Nations Unies. Et c'est très clair, la résolution qui a mis en place l'amnistiement parle également des questions de justice. Donc à partir de là, je pense que l'amnistiement devrait prêter main forte pour que cette enquête puisse être menée et au vu de ce rapport, pour que justice soit faite, que les auteurs soient poursuivis et que réparation soit faite aux victimes. Quel doit être le rôle de la communauté internationale? Mais aujourd'hui, nous nous sommes un peu déçus par le rôle de la communauté internationale elle-même, qui d'un côté tente de sauver le Mali, mais de l'autre côté bloque même le fonctionnement de tout le système pour des raisons de paix et de réconciliation nationale. Je pense qu'on doit quand même être regardant sur ces deux côtés pour qu'à côté de la paix et de la réconciliation, que justice aussi soit faite. Sinon, toute paix construite sur cette base serait précaire.
Alors, par rapport justement à ce rôle de l'État et des partenaires du Mali, que sont la MINUSMA et peut-être par ricochet la France, ce rôle de gendarme de l'État, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui compromis puisque on assiste aussi à la libération de certaines personnes sur lesquelles pèsent de lourds soupçons? Notamment la libération d'Aga Al-Husseini dit Ouka Ouka, Dan Sardine, aujourd'hui libéré au nom de la réconciliation. J'ai là un communiqué du FIDH et de l'AMDH qui déplore cette libération. Alors, quelle place laisse-t-on à ce genre de cas dans le rapport d'Amnesty International? Salom de...
Il faut que je félicite beaucoup l'AMDH et la FIDH pour... être intervenu de cette façon sur cette libération. Mais c'est toujours ce que nous avons dit. On sacrifie les droits humains sur l'autel de la paix. On ne peut pas faire la paix en faisant exprès de renvoyer les problèmes. Parce qu'il s'agit de renvoyer les problèmes. Parce que quand des grands, j'allais dire bandits, des criminels de ce genre sont libérés, ne sont pas jugés, mais ils vont reprendre encore tout de suite le travail qu'ils ont eu à faire. Donc tout ce qu'on a eu à leur reprocher, ça tombe à l'eau, au nom de la paix. Mais quelle paix? On ne construit pas la paix sur l'impunité. Il faut forcément que les gens pensent d'abord à faire respecter le droit, à faire en sorte que les victimes puisse vraiment dire un ouf de soulagement.
Mais est-ce qu'au moment de cette libération, le Mali n'avait pas le couteau sous la gorge?
Mais le Mali n'a pas le couteau sur la gorge. Hein.
Il y avait des militaires détenus par les groupes armés au nord.
Oui, mais les militaires détenus par les groupes armés au nord, eh bien, est-ce qu'il faut libérer...
parce que, voilà, ça a été un échange.
Voyez ce qui est arrivé. On a libéré des criminels contre des gens simplement qui ont été pris en otage, des innocents qui ont été pris en otage, et pour pouvoir les libérer, on les échange contre des criminels. Mais c'est effarant, c'est pas possible. Comment ça peut arriver? Il faut trouver autre chose, mais vraiment, c'est des libérations qui font qu'on va toujours en arrière.
Alors, le Mali peut-il adopter une justice correcte pour dans le cas actuel dans le cas actuel des choses, le Mali peut-il juger, peut-il avoir une justice correcte, Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH?
Oui, je dirais que le Mali peut aller vers une justice que nous souhaitons tous dans la recherche de solutions de la paix, une paix qui nous préoccupe tous. Il suffit tout simplement que les politiques se mettent de côté et laissent la justice faire son travail. C'est ce qu'on a toujours clamé, c'est ce qu'on a toujours dit et demain on le répétera. Nous avons dit que seuls les juges sont en mesure
de libérer
et de mesurer la gravité des faits qui sont reprochés à ces présumés auteurs. Mais on a assisté à une scène de libération, je dirais de complaisance. Et comme l'a dit Salim, c'est des militaires qui ont été pris sur le champ de bataille. On veut les échanger contre des criminels, des gens qui sont accusés de graves violations des droits humains. Si on avait laissé la justice faire son travail, on allait repenser, revoir, revisiter la liste que les groupes armés avaient envoyée à la République du Mali pour dire « Attention, les dossiers sont au niveau de la justice, seuls les juges peuvent nous dire qui et qui sont libérables. » Mais au lieu de passer par ce chemin, on a choisi le politique. C'est comme on dit, hein, quand le politique rentre dans le prétoire, le droit la sort par la fenêtre. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Et ça ne peut pas nous amener sur le chemin de la paix. Parce qu'on est en train de faire des frustrés. Et voyez-vous, ce monsieur qui a rendu des sentences extrajudiciaires, à la suite desquelles des gens ont été amputés, des femmes flagellées, des gens privés de leur liberté, qu'on voit ces messieurs parader dans les rues de Tombouctou, ça ne fait que créer de la frustration chez les victimes. Et ces victimes vont penser qu'elles sont des laissées pour compte et que ces graves violations qu'elles ont tant rapportées, et surtout, je souligne au passage, que l'AMDH, la FIDH, avait porté plainte avec constitution de parti civil contre ce monsieur. Et en dépit de tout cela, il a été libéré. Donc nous pensons que nous n'allons pas nous arrêter ici. Notre combat va continuer ailleurs. Parce qu'on va nous dire de l'autre côté, attention, on les a libérés pour la paix, mais après on peut reprendre la procédure. Mais les victimes, entre-temps, peuvent décéder. Celles qui doivent amener la contradiction pour confondre ces messieurs peuvent décéder. Les traces peuvent être effacées. Je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin.
Alors, Maître Bremakone, est-ce que c'est également votre avis?
C'est tout à fait mon avis. Et je voudrais aussi en profiter pour dire que l'État est sur la mauvaise pente. Parce qu'on est en train de confondre des choses qui n'ont rien à voir. Le fait de libérer les prisonniers, ça c'est un élément du droit international humanitaire. Après, pendant une guerre, s'il y a des prisonniers qui sont faits de part et d'autre, on peut par la suite procéder à des échanges de prisonniers. Mais Saloum l'a dit également, on ne peut pas échanger un simple prisonnier contre un criminel. Et vous savez que c'est des crimes assez graves qui sont même imprescriptibles au regard du droit international. Donc, pour des raisons politiques, on va les libérer aujourd'hui. Mais quel que soit le temps que cela va prendre, un jour justice sera faite aux victimes.
Comprenez-vous ces raisons politiques?
Les raisons politiques,
est-ce que vous les comprenez?
Clament la paix, la réconciliation. Donc on va brader les droits des victimes contre la libération de ces criminels-là. Et c'est quelque chose qui risque d'engendrer la justice privée. Parce que vu la gravité des faits qui ont été commis par certains de ces criminels, qu'on les laisse encore se pavaner, narguer les victimes, je pense que ça peut aboutir à la justice privée, ce qui n'est pas aussi de nature à engendrer, en tout cas, la paix et la réconciliation nationale tant recherchée. Donc, les autorités ont vraiment intérêt à revoir les choses. La communauté internationale qui va peut-être dire aux autorités d'aller vers la paix et la réconciliation, c'est également que c'est des principes qu'elle-même a établis et chaque État a l'obligation aussi de respecter dans les rapports entre les hommes.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie de ce débat.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci pour votre fidélité. Dans la cité du Kénédougou, une de nos radios vous permet de suivre cette émission sur place. Et là, je fais référence à la radio Kéné de la ville. Et un certain Boubacar Cissé représente nos yeux et nos oreilles à Sikasso. À travers lui, nous saluons le courage de l'ensemble de nos 20 correspondants à travers tout le pays. Revenons à présent autour de cette table. Et nous parlons aujourd'hui, comme vous le savez, du dernier rapport d'Amnesty International sur le Mali. Dans cette troisième partie, nous tentons de comprendre le volet insécurité du rapport d'Amnesty International. Pour décortiquer tout ça, nous avons comme invité Maître Mokhtar Mariko de l'Association malienne des droits de l'homme, Saloum D. Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, et nous avons également en ligne Maître Brima Kone de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Alors, juste avant d'entamer cette troisième partie, le rapport parle également de l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo. Qu'est-ce que vous dites à son propos, Salam?
Bon, je pense que pour l'arrestation du général Aya Sanogo, en son temps, il y a eu des très graves violations des droits humains dans ce pays. Donc, il est l'auteur du coup d'État. Peut-être que nous n'allons pas lui reprocher d'avoir fait un coup d'État, c'est son opinion. Mais ce qui a suivi le coup d'État, il y a eu beaucoup d'exécutions extrajudiciaires, il y a eu des disparitions d'hommes. Et vous savez que par rapport à ça, effectivement, Amnesty International avait publié depuis vers mai 2012, nous avons publié la première liste. La liste des gens qui ont disparu. Et ensuite, vous savez qu'après les événements ou les contre-événements, je ne sais pas comment on va les appeler, qui sont arrivés en avril, il y a eu justement le contre-coup d'État, il y a eu la disparition de 28 personnes. Et ces 21 personnes, nous avons donné exactement, Amnesty International a donné exactement les noms, les grades et les corps de ces 21 personnes. Et ce qui est arrivé, c'est que, après enquête, après tout, etc., finalement, les 21 personnes ont été découvertes et réellement, ce sont ces 21 personnes-là, dont la liste a été donnée dans le rapport d'Amnesty International. Donc, on ne peut pas dire que M. Aya n'a rien à voir dans ça. Donc, je pense que la justice, comme lui, il est déjà dans les bras de la justice. Nous avons foi à notre justice et c'est certain que justice va être faite. Les pauvres dames, les pauvres parents de ces personnes qui ont disparu sont encore là. Ils sont des victimes, ils attendent justice. Et je suis certain que Maître Mariko pourra en dire mieux que moi parce que l'AMDH s'est même constitué partie civile pour pouvoir aider ces victimes-là.
Alors, AMDH, Maître Mariko.
Oui, bon, par rapport à l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo, je pense que c'est une victoire pour les partis civils que nous sommes, et pour les familles de ces militaires portés disparus qui ont été par la suite retrouvés dans un charnier. Je pense que si cette arrestation, j'en suis sûr, j'ai foi à la justice malienne, va nous conduire à un procès au cours duquel le général Amadou Aya Sanogo aura la parole. Parce que nous voulons que ce procès soit un procès équitable, qu'il vienne s'expliquer, que la vérité soit restituée sur le plus petit événement qui s'est passé pendant ce moment de crise que nous avons vécu ici. Qui vient donner sa version des choses, qui vient donner ce qu'il savait réellement de la disparition ou non. C'est ce que nous attendons de ce procès. Mais il y a une chose qui nous gêne un peu.
nous pouvons dire que le gouvernement du Mali est en train de lutter contre l'impunité au Sud à travers ce procès et à travers les instructions de ce dossier, à travers l'instruction de ce dossier. Mais par contre, nous assistons à la culture de l'impunité au Nord. Nous voudrons que le gouvernement du Mali comprenne que toutes les victimes ont les mêmes droits. Que ce qui se passe au Sud doit réellement être repensé au Nord afin que ces victimes aient un droit à la réparation et un droit à un procès équitable où elles seront informées sur le pourquoi de ces exactions et comment elles se sont trouvées là et pourquoi encore ces gens se sont attaqués à eux. Donc c'est cette vérité que nous voulons à travers l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo et à travers toutes ces graves violations qui ont eu lieu dans le nord du Mali. Il faudrait que les auteurs soient poursuivis et que la justice passe avant.
Alors, Maître Brema Kone, vous êtes de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Maître Mokhtar Mariko vient de le dire, il y a une autre forme de justice pour le Nord et une autre pour le Sud, ce sont ses propos. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces deux aspects de la justice?
Nous ne pouvons que déplorer cette façon de rendre justice. Autant nous avons salué les poursuites engagées contre les présumés auteurs des crimes perpétrés au Sud, notamment Amadou Aya Sanogo et ses complices. Autant nous avions aussi salué les poursuites engagées contre les présumés auteurs des crimes perpétrés au Nord. Mais aujourd'hui, si on se permet de libérer presque tous les criminels du Nord, les présumés criminels du Nord, et sans même laisser la place à la justice, je pense que ce serait vraiment pas une bonne chose. Au même moment où d'autres sont poursuivis et détenus pour des crimes commis au Sud. Mais j'ai dit que le fait de libérer les criminels du Nord n'est pas une raison pour nous de demander que tous les criminels soient libérés. Nous pouvons simplement demander que tous les criminels soient poursuivis de la même manière pour qu'il y ait quand même une justice digne de ce nom.
Alors, Amnesty a donné ce rapport. On rappelle le contexte. Le Mali est dans une situation d'instabilité. Aujourd'hui, l'insécurité règne au nord. Quel est le volet consacré à cet état de fait, Maître Salem Détraoré?
Oui, bon, ce que nous avons déploré, c'est que après les événements de Kidal, nous avons constaté que les parties du Mali du Nord qui étaient déjà déclarées libérées, des parties où les gens ont commencé à vaquer à leurs occupations quotidiennes, eh bien ces parties sont encore réoccupées par les, je mets ça entre parenthèses encore, les djihadistes, les criminels de tout Akabi. Et nous pensons que c'est un recul. Nous pensons réellement que c'est un recul. Je ne vais pas donner des impressions, surtout je ne vais pas juger le déplacement du Premier ministre, étant donné que Kidal, malgré le fait quand même que Kidal, il faut le reconnaître, est malheureusement dans les mains de ces assaillants-là, nous ne pouvons pas dire que Kidal n'est pas le Mali. Et si le Premier ministre s'y rend, c'est tout à fait normal, mais il y a des préalables. Il y a quand même des préalables parce que ce qui est arrivé là-bas, c'est extrêmement grave. Dans un coin où on avait simplement quelques dizaines, disons 200 à 300 militaires maliens, et le Premier ministre se retrouve là, je pense que la sécurité qu'il faut ne pouvait pas être aussi assurée. Et donc, ça a amené ce que nous avons vu. Donc, moi, je pense que cette question de sécurité et tout le conflit d'ailleurs, doit vraiment être revu pour que les gens reviennent par terre. Il faudrait forcément que, pour trouver une solution à tout ça, on pense réellement à la justice. Et qui dit justice parle de vérité. Et quand nous voulons parler de la réconciliation passe forcément par la vérité. Et la vérité, c'est la justice. Et ça va donner la réparation. Et c'est ce qui va endoucir les cœurs. Et en ce moment-là, on peut parler de réconciliation. Tant qu'on ne passe pas par là, eh bien, l'insécurité va perdurer. Et je ne sais vraiment pas, je ne souhaite pas ce qui va être plus grave que ça. Déjà, on est vraiment très loin dans l'insécurité. Et je prie Dieu pour que les choses plutôt s'arrangent mieux que ça.
Alors, Maître Mokhtar Mariko, vous êtes de l'Association malienne des droits de l'homme. Quel est le degré d'importance qu'accordent les autorités à ce genre de rapport que Amnesty International vient de produire?
Bon, je ne pourrais pas porter de jugement à la place des autorités maliennes, mais ce que je sais, c'est que ce rapport est fait par des professionnels. Quand vous lisez les rapports, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas été inventées. Ils sont partis des constats. Et nous, comme Amnesty International, nous pensons que ces constats passent aussi par des témoignages. Nous avons des gens, des témoins oculaires ou bien des gens qui ont vécu ces graves violations qui nous rapportent les faits. Et nous-mêmes, quand on fait les recoupements, on voit qu'effectivement, ce qui a été dit ne peut être que la vérité. Donc, ce que je peux dire au gouvernement du Mali, c'est de prendre en compte ces rapports et que ces rapports n'est pas une invention, ces rapports reflètent la réalité du terrain. Et donc, nous pouvons les dire vraiment d'encourager ce genre d'initiatives faites par les organisations parce que ça peut aider le Mali dans sa politique de répression contre les crimes.
Alors, Maître Brema Kone, le dernier mot vous revient pour ce débat. Vous êtes de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez aux autorités par rapport à des rapports du genre que vient de produire Amnesty International aujourd'hui?
Toute autorité responsable doit accorder du crédit à un rapport de cette nature. Les organisations des droits de l'homme sont là pour apporter leur concours à la protection des droits de l'homme, tout comme les autorités ont le devoir de protéger les citoyens. Donc, il y a des aspects sur lesquels souvent les autorités passent à côté, alors que les organisations des droits de l'homme, quand elles font un rapport, c'est des rapports objectifs qui sont faits et dont l'objectif essentiel est de faire cesser les irrégularités ou alors de prendre les dispositions pour en tout cas apporter ce qu'il faut. Et ce rapport permet en tout cas de lever le voile sur les exactions, tous les crimes qui sont commis au Nord, et invite également l'État malien à prendre les dispositions pour que cesse le règne de l'impunité et que certains droits puissent être respectés.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Merci aux deux autres invités, Maître Mokhtar Mariko et Saloum De Traoré de d'Amnesty International. De ce débat donc s'achève. Nous parlions du dernier rapport d'Amnesty International sur le Mali. Trois volets ont été débattus. Le contenu du rapport, les enquêtes sur les exactions et l'insécurité dans le pays. Maître Mokhtar Mariko était un de nos invités de l'Association malienne des droits de l'homme. Saloum De Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International au Mali, Maître Brema Kone de l'Union internationale africaine des droits de l'homme. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Dera était à la mise en onde, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigeka Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halou Dmoundi.
Chenni Biro.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.